RMC, Carrément Brunet, Éric Brunet.
Bonjour Florence Servan-Schreiber.
Mais bonjour.
Vous allez bien?
Mais je vais très bien,
bon.
Vous-même.
Alors, vous avez publié 3 kiffs par jour, je m'en souviens, je ne l'avais pas lu, mais je me souviens très bien de la sortie de votre livre il y a à peu près 2 ans, hein, c'est ça?
C'est une petite de 5 ans, on va dire.
Bon, très, un peu plus. alors, qu'est-ce que c'est, j'entends, il va être adapté, votre livre, au Festival d'Avignon, c'est ça, cet été?
Absolument. Donc, je suis professeure de bonheur. C'est ça qu'il faut savoir. C'est que tout ce dont vous parlez depuis tout à l'heure est étudié aussi par la science. Qu'est-ce qui fait qu'on se sent bien? Est-ce que c'est le passé? Est-ce que c'est l'avenir? Est-ce que c'est le présent? Etc. Et peut-être avant de vous parler du Festival d'Avignon, un petit message à Fabrice. Vous savez que être en colère ou même avoir du peut-être un peu de ressentiment contre ce que l'on ne peut pas changer est extrêmement mauvais pour la santé.
Ah.
Et que, en revanche, quand on dit que la science nous aide à gagner en espérance de vie, etc., je voudrais vous donner un truc beaucoup, beaucoup plus simple. Pour gagner en espérance de vie, c'est la gratitude. La gratitude, c'est de se dire, mais dans le fond, de quoi suis-je contente? De quoi suis-je heureux? Qu'est-ce qui dans ma vie me plaît? Les Peugeot ont changé de tête? Ok, mais est-ce qu'il y a un modèle qui me plaît? Vous voyez, et avec ça, on peut gagner, figurez-vous, jusqu'à 7 ans d'espérance de vie.
Mais c'est vrai, moi je kiffe la 504 Peugeot Cabriolet dessinée par Pininfarina, magnifique cabriolet historique, si je me l'offrais cette 504.
Et ben voilà.
Attendez, vous êtes en train de me dire que le type heureux a une longévité supérieure à l'énervé, au râleur?
Absolument. Non, pas heureux, satisfait de ce que l'on a.
Ouais.
Parce que surtout, regardez, il y a beaucoup de choses autour de nous auxquelles nous ne pouvons rien changer en tant qu'individu. Et quand vous parlez de nostalgie, parce qu'en fait c'est de ça dont vous parlez depuis le début de l'émission, c'est à quoi sert la nostalgie? En fait, elle doit nous servir à avoir des souvenirs qui étaient formidables. Mais les jeunes d'aujourd'hui, leur présent va devenir leur nostalgie à eux. C'est-à-dire que ce moment que nous, peut-être parce que nous sommes plus vieux, nous disons « là là, c'est beaucoup plus dur », eux peut-être un jour se diront « mais c'était le bon temps ».
Ouais, tu te souviens la première fois qu'on est monté dans une Google Car, hein? On a fait Paris-Perpignan, il n'y avait pas de conducteur, disons, on avait peur, dans chaque virage, on se disait « elle va verser la voiture ». Et puis non, on est arrivé à Perpignan sans chauffeur.
Alors, comme moi, je tiens beaucoup à ce que les gens comprennent ça et que d'être dans son présent, de le vivre absolument pleinement est possible, nous avons eu l'idée d'amener tout ça au théâtre. Et en effet, nous allons au Festival d'Avignon. Donc, c'est une pièce qui s'appelle La Fabrique à Kiff.
Oui.
Et malgré ce nom comme ça, qui a l'air un peu léger, est en fait un cours de bonheur extrêmement sympathique où on apprend ce que les chercheurs nous disent précisément sur ce sur quoi nous avons la main.
Vous, Florence,
oui.
Dites-moi sérieusement, vous n'êtes pas professeur de bonheur, c'est un titre, vous êtes autoproclamé professeur de bonheur, ça n'existe pas. Oui.
Absolument autoproclamé.
Bon.
Mais attention, il y a une science du bonheur, c'est pour ça que j'appelle ça professeur de bonheur, parce que tout ce dont je parle sort de laboratoires qui étudient des gens en essayant de comprendre justement comment être en meilleure santé par rapport à la manière dont on se sent, qu'est-ce qu'on peut faire pour non seulement se sentir mieux, mais surtout être en meilleur état globalement.
Oui.
Et vraiment, la colère, le ressentiment, la nostalgie ne nous aident pas à faire ça.
Mais est-ce qu'on peut... Ça m'intéresse. Moi, je me souviens d'avoir croisé un jour un grand professeur de cancérologie qui m'avait dit on n'a jamais pu établir de lien entre l'humeur et la pathologie, le cancer. Souvent, des gens disent « Ah ben, il se l'est fait, ce cancer, parce qu'il lui est arrivé ça, il a perdu sa femme, et bien sûr, l'année suivante, il a... »
Oui,
bon,
on peut pas dire ça.
On n'a jamais pu établir de lien. Est-ce que vous pensez qu'on peut dire, de façon sérieuse, que la bonne humeur, le fait d'être satisfait, protège?
Alors, je vais vous dire autre chose. Une fois qu'on a eu un cancer, ce qui nous protège, c'est la qualité des relations que l'on entretient avec les gens autour de nous. Ça, c'est absolument démontré. C'est-à-dire que si on a été malade, si on souffre de quoi que ce soit, et qu'on a néanmoins dans sa vie un lien comme ça important et réciproque avec quelqu'un, on a moins de chances de récidive et de retomber malade. Donc ça, c'est démontré. Donc oui, c'est difficile de dire à quelqu'un qui est malade, tu t'es fait ce cancer parce que tu étais en colère.
Oui, ou... ça
voilà.
Faire gaffe,
on le pense, mais on ne peut pas dire ça. En revanche, ce qui est intéressant, c'est l'inverse. C'est que quand les choses deviennent difficiles, vraiment, la qualité de ceux qui nous entourent, de la douceur que nous mettons dans les rapports autour de nous, font que non seulement on est plus optimiste, mais on a plus de raisons de vivre. Et oui, les chiffres, là, le démontrent. Il y a moins de récidives dans ces cas-là.
Ouais.
Quand des femmes ont un cancer du sein, quand les hommes ont des accidents cardiaques, c'est absolument déterminant pour eux d'avoir en effet, au moins une relation qui est comme ça.
L'hypochondriaque Anthony Morel, qui est juste à côté de moi, fronce les sourcils, il est concentré sur ce que...
Ah, j'écoute tout, je vois vos paroles.
Bon. Mais voilà, mais plutôt que de se soigner, soignons les rapports avec les gens autour de nous.
Vous êtes, d'un naturel, vous êtes toujours optimiste, vous êtes toujours souriant. Mais la télé, je vous regarde. Attendez, je parle à mon autre invité. Mais c'est vrai que sur BFM TV, je vous vois, vous êtes tout de suite. Et le high-tech, pour vous, c'est la fête.
Ouais,
je me demande d'ailleurs s'il est vraiment sain que vous perceviez un salaire pour ce travail qui ne nécessite aucune rémunération.
C'est quoi ton vrai boulot, en fait? Oui, c'est ça. Bah oui, effectivement. Non, mais vite. Oui, parce que. Et c'est pas quelque chose que je feins, parce que. Que réellement j'ai un optimisme par rapport à ces technologies et par rapport à ce qu'elles peuvent nous apporter. Et encore une fois, on n'est pas dans le scientisme. Je dis pas que la technologie est la solution à tout. Dans ce que je présente, il y a aussi une bonne part de gadget parfois. Mmh. Il faut bien distinguer ce qui relève du gadget et ce qui relève de ce qui va réellement révolutionner notre vie. Mais ce dont on parlait tout à l'heure autour de la santé, les révolutions aussi industrielles, vous parliez des Google Cars ou des voitures autonomes qui vont nous faciliter la vie. Je pense aussi à des moyens de transport, vous parliez du Concorde tout à l'heure ou du TGV. On va avoir mieux dans les années qui viennent, ça va arriver. L'Hyperloop d'Elon Musk, vous voyez ce que c'est l'Hyperloop?
Non, qu'est-ce que c'est?
C'est un espèce de train qui sera capable, alors qui sera sur coussin d'air, qui sera capable de faire un Paris-Marseille en 40 minutes. Mmh. En 40 minutes! Ils sont en train de le tester en ce moment aux États-Unis. Hein, on parle pas d'un truc qui va arriver dans 50 ans. Là, ça va arriver. Donc, c'est vraiment la technologie au service de l'homme. Et c'est quelque chose de très concret. Et là encore, on peut pas dire que c'était mieux avant. C'est mieux de faire Paris-Marseille en 40 minutes que de le faire en 3 heures.
Oui. Hein,
on est d'accord.
Merci beaucoup, Anthony Morel. Merci beaucoup.
Merci.
Merci beaucoup à vous, Florence Servan-Schreiber. Et bonne chance au Festival d'Avignon, ce sera le 19 juillet, votre fabrique à Kif.